Bonsoir, comment allez-vous ? Les voyages forment la jeunesse. Dans la maison de la radio, comme presque partout, il y a une hiérarchie. La présidence, les directeurs, les grands journalistes, les grands animateurs qui ont des grands bureaux, des grands égos, des grandes heures d'écoute, et puis les plus débutants, les moins connus, les techniciens qui, soit dit en passant, sont particulièrement bons chez nous, et puis tout le personnel administratif que vous n'entendez jamais mais qui font tourner la boutique, et tout un tas de gens encore. En bas de cette échelle sociale, il y a ceux qui s'occupent du nettoyage de la maison. Dans les couloirs de la radio, à 6h du matin, on ne dit pas bonjour de la même façon à Nicolas Demorand qu'au monsieur qui passe l'aspirateur, même si on salue les deux, bien entendu. Le monsieur qui passe l'aspirateur, je ne connais pas son nom. Il pourrait être remplacé par un autre, les journaux n'en parleraient pas. C'est comme ça. C'est comme ça à Paris. Ce monsieur du ménage n'est à l'évidence pas un familier de Paris. Il en parle mal la langue, il n'en a pas la gestuelle. Mais si je rencontrais cet homme dans son pays d'origine, c'est moi qui à ce moment-là ne parlerait pas la langue du lieu et n'en aurait pas la gestuelle. C'est lui qui, avec sa belle prestance, serait le personnage important. Lui qui aurait le savoir, le pouvoir, l'aisance. Et moi qui serais perdue, peut-être même complètement en rade. Les voyages ne manquent pas de péripéties. À chaque fois que je croise cet homme dans le couloir, moi allant vers mon beau bureau dans mon beau manteau, et lui dans sa combinaison d'une société de nettoyage pliée sur sa machine, je me dis que ce monsieur est puissant, sage, savant, qu'il ne suffirait que de quelques milliers de kilomètres qui ne sont que poussière face à l'univers pour que ce soit moi qui soit à ses pieds. Les voyages forment la jeunesse.
Je m'appelle Adrien, j'ai 8 ans et je voudrais savoir comment ils se nourrissent pour faire le tour du monde seul en bateau.
Bonsoir Adrien. Évidemment, Adrien, nous proposons ta question à un marin, un aventurier, un skipper qui a un très joli projet qui s'appelle Sea Cleaner, comme nettoyer la mer. Comment ils se nourrissent pour faire le tour du monde seul en bateau ? Yvan Bourgnon vous demande, Adrien.
Alors pour les marins, il y a plusieurs catégories. Évidemment, il y a ceux qui sont en loisir ou ceux qui faisaient de la compétition dans les années 60, 70 et qui faisaient à manger en fait littéralement comme à terre. Donc ils emmenaient les sacs de pommes de terre, de riz. Puis il y avait les grandes cuisines à bord. Et puis voilà, on emmenait les bouteilles de pinard et on faisait à manger à bord comme à terre, comme on pouvait. Et c'était parfois un peu sportif avec cette cuisinière qui se balade au fil de la gîte du bateau. Et puis après, il est arrivé la compétition, la course au large. Et là, on a vite compris que c'était compliqué de faire à manger sur un bateau. On avait d'autres préoccupations, faire avancer le bateau le plus vite possible. Et les bateaux devenant très exigeants et secouant énormément, et ben là, on est parti dans la voie du plat lyophilisé. Et ce sont finalement les cuisinières qui cuisinent à terre, qui préparent ces plats lyophilisés. Donc tout simplement, elles font à manger et puis après, elles le déshydratent entièrement ces plats pour enlever le liquide, l'eau, et elles le mettent sous sachet, sous vide. Et ensuite, nous, on ouvre ces sachets et on est capable de préparer ces plats en remettant de l'eau, en réchauffant ce plat sur place de manière très simplifiée. Et du coup, en 10 minutes, notre plat est finalement prêt à la façon d'une soupe Waco ou Bolino. Et voilà, c'est très, très, très rapide.
Alors Yvan Bourgnon, en fait, donc ça économise de la place, ça économise du temps pour le navigateur. En revanche, il faut emporter de l'eau.
Voilà, il faut avoir de l'eau et c'est pas toujours facile de l'avoir. Alors moi, pour le tour du monde que j'ai réalisé en 2013-2015 sur ce petit catamaran de sport, là, j'avais fait le choix aussi de récupérer l'eau par une gouttière en fait qui était en bas de la voile. Donc telle une maison qui récupérerait ses eaux, je récupérais mon eau douce et puis ensuite je pêchais aussi parce que j'avais l'opportunité. Je pêchais des bonites, des thons, des dorades qui étaient un bon complément alimentaire parce que souvent sur nos bateaux, on n'a pas de frigo, on peut pas amener de la viande, du poisson, des choses un peu fraîches et ça fait du bien de manger ce petit poisson de temps en temps.
Et enfin, ces plats lyophilisés, c'est artisanal ?
Alors, il y a quelques fournisseurs en France seulement qui font ça, mais elles le font de manière effectivement assez artisanale et après c'est juste l'emballage qui est finalement fait de manière industrielle et distribué un peu à tous les skippers, mais c'est vrai que maintenant on a accès à des bons bœufs bourguignons, à des bons couscous, à des belles choses. Quand je vois ce qu'on mangeait dans les années 90, c'était des plats lyophilisés de la NASA qui étaient utilisés et qui étaient vraiment immangeables. Alors certes, il y avait les calories, il y avait ce qu'il fallait pour survivre, mais ça n'avait aucun goût, quoi. Aujourd'hui, on a fait des gros progrès dans le domaine.
D'ailleurs, quand on trouve qu'un biscuit est un peu indigeste, on dit « oh là là, c'est un biscuit de mer ». Yvan Bourgnon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait réussi cette chose tout à fait extraordinaire en 2013-2015, un tour du monde, sans GPS, sans réception météo, à l'ancienne, avec juste un sextant, compas, une carte papier et les étoiles. Chapeau. Les Français ont quelques travers. Nous ne sommes pas seulement râleurs et mauvais en géographie, nous chantons aussi terriblement faux. On le constate à chaque fois qu'on s'essaye à la Marseillaise, c'est tragique.
Bonjour, je m'appelle Hugo et je voudrais savoir pourquoi certaines personnes chantent juste et d'autres faux.
Bonjour, je m'appelle Loé et j'aimerais savoir pourquoi il y a des gens qui chantent juste et d'autres qui chantent faux? Comment fait-on pour apprendre à chanter juste?
Bonsoir Hugo et Loïs. Alors, c'est le docteur Jean Abitbol qui vient d'écrire Le pouvoir de la voix. Alors, vous êtes en plein dans le sujet chez Alary Édition. Le docteur Jean Abitbol est ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, chirurgien ORL et phoniatre. Quel beau nom, phoniatre. Alors, est-ce que vous pouvez leur répondre à tous les deux?
Bien sûr. D'abord, c'est une question, paradoxalement, qui n'est pas due à la voix avec laquelle vous allez parler, mais due à votre oreille.
Ah.
Car effectivement, l'oreille, lorsque vous écoutez quelque chose, va mémoriser la musique ou la voix chantée, et ensuite vous allez vouloir la reproduire, celle-ci. Mais le fait capital, c'est quand je vous parle, je m'entends moi-même de deux façons. Ma voix passe en dehors de mes lèvres, arrive sur mon oreille par le circuit qu'on appellerait extérieur,
oui.
Donc par l'air ambiant.
Oui.
Mais elle passe aussi par un circuit interne qui est la vibration à l'intérieur de mon corps et qui rentre directement dans l'oreille interne. Et c'est le mélange de ces deux écoutes, de ces deux auditions, on pourrait presque dire, que j'entends moi-même. Mais vous, vous n'entendez pas ces deux auditions.
Oui,
vous n'entendez que ma voix qui vient de passer dans l'air entre vous et moi, par exemple. Eh bien oui, Hugo, il se passe le phénomène suivant, c'est que si tu entends ma voix, toi tu n'entends qu'avec l'air que je viens de transmettre par dépression. Alors si on chante faux, c'est qu'on n'arrive pas à harmoniser notre voix intérieure, notre voix qu'on entend à l'intérieur de nous-mêmes et notre voix qu'on entend par l'extérieur de nous-mêmes. Elles sont pas, j'allais presque dire, en symbiose, c'est-à-dire en harmonie. Donc on peut pas reproduire un chant normal puisqu'on les entend pas bien toutes les deux. Alors comment faire pour chanter juste quand on chante faux? Alors la seule façon de pouvoir chanter juste, c'est simple. Si je mets un casque, quelque part, je camoufle ma voix intérieure puisque je mets un casque avec une puissance relativement forte qui permet d'écouter ma voix telle que toi tu l'entends et pas moi. Et que mes oreilles n'entendent plus que ma voix mais par la fonction extérieure. À ce moment-là, je me dis attends, là ça va pas et je me mets à chanter juste. C'est comme ça qu'on fait dans les karaokés. Pour les gens qui chantent très faux, on leur demande de mettre un casque et ils se mettent à chanter juste.
Après Alain Souchon, dans nos petits bateaux, nous saurons pourquoi Astérix s'appelle comme ça, comment se forme le verglas et depuis quand mangeons-nous des huîtres.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi, j'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches. J'ai 10 ans, les filles c'est les cloches. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. caché dans ma cabane. Je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré.
Ça fait un moment qu'il a 10 ans, Alain Souchon. Tous les hommes ont 10 ans, mais tous ne le reconnaissent pas. Peut-être que de le reconnaître, d'ailleurs, c'est le début de la maturité.
Les petits bateaux sur France Inter.
Alors, pour ceux qui débarquent, voici comment marchent les petits bateaux. C'est une émission où des enfants, petits et grands, posent des questions dans tous les domaines. Et nous, nous trouvons des savants, donc dans tous les domaines, pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 10 ans. Et je voulais savoir... pourquoi Astérix s'appelle-t-il comme ça, pourquoi c'est son nom? Voilà, au revoir.
Merci Lucille. Pourquoi Astérix s'appelle-t-il Astérix, Jessica Cohn? Vous êtes chercheuse en histoire du dessin.
Lucille, tu sais que si tu avais eu quelques années de moins, tu aurais pu poser cette question directement à Uderzo et Goscinny, parce qu'on leur posait toujours quand ils passaient à la télévision ou à la radio.
Ah ouais?
Pourquoi ce jeu de mots-là et puis pas un autre? Alors, Astérix, ça a été le premier qui a été choisi. Il fallait une assonance en X parce que ça faisait gaulois, à cause de Vercingétorix. Et puis, peut-être aussi un peu à cause d'Alix, une autre série gauloise de l'époque qui était dessinée par Jacques Martin. Et puis, il fallait que ça commence par un A, parce que la première lettre de l'alphabet, ça faisait que l'album serait toujours premier dans l'ordre alphabétique. C'était meilleur pour les ventes. L'astérisque... c'est un peu différent. Tu sais, l'astérisque, c'est cette espèce de petite étoile. C'est un signe typographique qui permet d'apporter une précision ou un commentaire dans un texte. Et d'ailleurs, c'est pas mal utilisé dans les BD d'Astérix et Obélix pour traduire un terme ou pour dire que c'est une vraie anecdote. En fait, il se trouve que Goscinny, le scénariste d'Astérix et Obélix, il vient d'une famille d'imprimeurs et de typographes. Et les symboles typographiques ont toujours été très importants pour lui. Donc on pense que c'est pour ça qu'il a pensé, quand il a su qu'il devait trouver un mot qui commence par A, qui finisse par X, et forcément, Goscinny, il a pensé au métier qu'il avait dans sa famille. Et d'ailleurs, Obélix, c'est pas forcément l'obélisque. On y pense à cause de la stature imposante du monument égyptien, mais pas que. Un obèle, c'est un autre signe typographique. Celui-là, il est vraiment pas connu.
Ça s'écrit comment? O-B-E-L.
O-B-E-L-E. En n'oubliant pas l'accent grave sur le E. Ce signe typographique-là, il prend la forme d'une croix latine. C'est celui qu'on met quand on veut annoncer le décès d'une personne.
Ah oui, je vois.
Mais c'est aussi un signe typographique qui est le complément de l'astérix, qu'on utilise avec lui.
Ah, c'est génial. Alors moi qui suis apparemment vraiment pas bienveillante, je pensais que Obélix obèse.
Eh ben pas du tout. D'ailleurs, il n'est pas obèse, il est juste un peu enveloppé.
Je vous demande pardon, vous avez raison.
Et puis, en fait, Goscinny et Uderzo, ils n'ont pas été les seuls à choisir les noms de leurs personnages. Idéfix, c'est les lecteurs qui l'ont choisi. Un lecteur a eu l'idée qui a beaucoup plu aux auteurs et qui l'ont adopté.
Non, mais là, alors quoi, il a fait une lettre?
Il a fait une lettre. À l'époque, ça se faisait beaucoup. On écrivait aux dessinateurs qu'on aimait. Les lettres étaient lues par les dessinateurs qui en recevaient quand même pas tant que ça. Et le choix a paru parfaitement cohérent à Uderzo et Goscinny, qui, les connaissant, ont dû bien rigoler à l'idée que ce petit chien têtu s'appelle Idéfix, et ça a été conservé.
Et voilà, c'est comme votre prénom à vous, en fait. Hein. C'est toujours intéressant et parfois surprenant de connaître l'origine d'un nom.
Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 8 ans, et je voudrais savoir comment le verglas se forme. Merci.
Bonsoir Bastien, c'est Emmanuel Beaucry, prévisionniste à Météo France, qui va te répondre à la formation du verglas.
Bonjour Bastien, alors Pour la formation de verglas, il y a de nombreuses façons de former du verglas, mais on va prendre les principales. En général, ce qui peut se passer, c'est que il va pleuvoir en cours de journée, et en cours de nuit, la température descend, parce qu'il n'y a plus de soleil pour chauffer le sol, et donc, si on n'est pas très loin de 0 degré, on peut arriver en dessous de 0 degré. Et à ce moment-là, en dessous de 0 degré, il se passe quelque chose de classique, l'eau liquide se transforme en glace, et ça fait du verglas. Il peut y avoir une autre façon de faire du verglas qui est moins connue du grand public et pourtant elle est très importante. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'eau surfondue. On a tous appris à l'école que l'eau, elle gelait à 0 degré. Eh ben, dans la nature, c'est pas tout à fait vrai. Il arrive que de temps en temps, et c'est assez souvent, on ait de l'eau qui soit à moins 1, moins 2, moins 5, moins 10 degrés et qui soit toujours liquide. C'est ce qu'on appelle un état instable. C'est-à-dire que dès que ça va toucher quelque chose, ça va se geler automatiquement. Et donc, on imagine bien que si j'ai un sol qui est à 1 ou 2 degrés et qui pleut de l'eau surfondue, cette eau qui est en dessous de 0 degré, quand elle va toucher le sol, paf, ça va devenir de la glace.
D'un coup.
Et ça, c'est un phénomène que nous, au sol, on le voit pas, on n'y pense pas souvent, alors que les pilotes d'avion sont tout à fait au courant de ça. Ils savent très bien que s'ils rentrent dans un nuage d'eau surfondue, ils vont avoir du gel, du givre qui va se faire sur les ailes. Et ça alourdit l'avion, ça déforme l'aile, c'est dangereux pour l'avion. Bastien n'est pas d'inquiétude, les pilotes connaissent le coup, ils ont des systèmes pour enlever la glace automatiquement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'eau surfondue, c'est un phénomène que le grand public connaît pas ou mal. Et pourtant, ça se produit tous les jours.
Donc l'eau surfondue se transforme en glace instantanément quand elle touche quelque chose. Donc en fait, le quelque chose, Emmanuel Beaucré, pour nous, c'est la route.
Ah, la route. Bah, sur les routes, il faut faire toujours attention parce que les verglas, c'est dangereux pour les voitures. Et en général, ça se produit plutôt en cours de nuit, en fin de nuit, c'est le moment où il fait le plus froid, en général.
C'est étonnant, hein, cette histoire de gel. Vous pouvez réécouter cette réponse d'Emmanuel Beaucré sur franceinter.fr.
Come, my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, take away my sadness, oh, lady darling, it's true, I give my world to you, let me show you how, let me show you now. Mm-hmm.
C'était un extrait du deuxième album du groupe français Roseau qui sortira au mois de septembre, Heart and Soul, avec la voix, la belle voix du chanteur suédois Olle Nyman.
Je m'appelle Lisa, j'ai 11 ans, j'habite au Vésinet. Je suis au collège du Cèdre. J'aimerais savoir depuis quand est-ce qu'on mange des huîtres. À bientôt.
Vésinet, c'est pas tout à fait au bord de la mer, c'est en région parisienne. Vous, en revanche, Jean Prou, vous habitez au bord de la mer, vous êtes chercheur IFREMER et vous êtes responsable du centre de la Tremblade dans les Charentes-Maritimes. Depuis quand est-ce qu'on mange des huîtres?
Alors Lisa, elle habite au Vésinet, mais peut-être qu'il y a 60 millions d'années, il y avait la mer au Vésinet, il faudrait vérifier. Alors, il y avait peut-être des huîtres au Vésinet, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'hommes. Les hommes ne pouvaient pas les manger. Alors, certainement que dès que les hommes sont apparus, ça c'est sûr, ou même ceux d'avant, les Néandertaliens, ceux qui étaient au bord de la mer, fatalement, ils mangeaient des coquillages. C'était une ressource de nourriture pour eux, quoi. Après, est-ce qu'on a des traces archéologiques, quoi? C'est bien de le dire comme ça, certainement que, mais les scientifiques, vous savez, ils veulent toujours un petit peu des traces ou des preuves de ce qu'ils annoncent. Alors, il y a 10 000 ans à peu près, il y avait encore des glaciers sur une partie de l'Europe, et la mer était à peu près 100 mètres en dessous du niveau où elle est en ce moment. Il y a 10 000 ans, 10, 12 000 ans, 14 000 ans. Ça veut dire que dans ces années-là, pendant moins 10 000 ans à moins 7 000 ans à peu près, la mer est remontée de 100 mètres.
C'est
énorme. Ça veut dire que les populations d'hommes qui étaient peut-être à l'époque en train de manger des coquillages, eh ben maintenant les restes de coquillages qu'on pourrait retrouver en archéologie, les coquilles vides, des choses comme ça, peut-être des outils, des silex, ils sont sous 7 ou 8 mètres d'eau maintenant.
Largement sous l'eau.
Sous l'eau. Donc on n'a pas ces traces-là, sauf dans des endroits où évidemment il y avait des grandes falaises ou des rochers, par exemple en Bretagne ou en Galice, en Espagne ou au Portugal, où il y avait des grandes falaises et où les hommes descendaient de la falaise pour aller pêcher les coquillages, remontaient les coquillages et donc on laissait des coquilles vides. Donc on trouve des coquilles vides au moins, je crois, 40 000 ans, il y avait déjà des gens qui mangeaient des coquillages sur le bord de la mer.
Et alors, pour ceux dont on a beaucoup de traces, les Romains par exemple, ils mangeaient des huîtres?
Alors, les Romains mangeaient énormément d'huîtres.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui. Et puis, des coquillages comme nous, crus et vivants, comme ça, qu'ils allaient chercher sur les côtes. On ne sait pas trop comment ils les transportaient, parce qu'on en retrouve en Allemagne, et on trouve des restes de banquets d'huîtres, c'est-à-dire des tas de coquilles. Quand vous mangez des huîtres, les coquilles, vous les mettez à la poubelle. Ben, eux, effectivement, on a retrouvé des poubelles de banquets de Romains, où ils mangeaient des huîtres fraîches, en plein milieu de l'Allemagne, ou en plein milieu de l'Autriche, ou à Lyon, ou à Poitiers. On a tout découvert, par exemple, un endroit où visiblement ils mettaient les huîtres à stabuler en attendant de les manger, quoi. Donc ils mettaient sans doute de l'eau avec du sel dedans et puis ils mettaient leurs huîtres en attendant de les manger pendant 2 ou 3 jours avant le banquet, quoi. Ou alors ils ramenaient de l'eau de mer, on ne sait pas trop comment ils faisaient, mais ils mangeaient énormément d'huîtres. Donc les Romains étaient des spécialistes. Ils connaissaient très très bien les huîtres des Dardanelles en Turquie, les huîtres de Calédonie en Écosse. Ils connaissaient les huîtres du Médoc, ils connaissaient les huîtres de Bretagne et ils les citaient. Non seulement ils citaient les huîtres d'où elles venaient, mais en plus ils leur donnaient des goûts. Ils disaient elle est plus salée que. Ils étaient très 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 bon connaisseur des huîtres.
Alors,
si on vient plus vers nous, quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Europe et même dans le monde entier, c'est des énormes tas d'huîtres. Les Schelmeiden, après il y a un nom danois mais je ne saurais pas le prononcer. Ce sont des populations qui ont ouvert des quantités énormes d'huîtres pour sans doute les conserver, c'est-à-dire les mettre dans des tonneaux avec du sel pour la saumure et l'envoyer après vers les grandes villes. Alors, il y a un cas célèbre en Vendée, à Saint-Michel-en-Lerme. Donc, ils sont des buttes coquillères, on appelle ça des buttes coquillères. Ce ne sont que des coquilles d'huîtres qui ont été ouvertes par des gens au Moyen-Âge, vers l'an 1000 à peu près. Et c'est énorme, ça fait 5 mètres de haut, ça fait plusieurs centaines de mètres de long. Donc, c'était une industrie au bord de la mer à l'époque, puisque la mer était pas loin de Saint-Michel-en-Lerme. Et donc, on a retrouvé les clous, on a retrouvé des morceaux de sandales. Donc, c'est bien les hommes qui faisaient ça, c'était pas des animaux. On a retrouvé ces tas de coquilles en Vendée.
Ça m'a donné envie d'entendre cette réponse de Jean Prou. Vous savez que c'est pas si difficile que ça à ouvrir les huîtres. Moi, maintenant que j'ai le coup de main, je peux en ouvrir des douzaines. En plus, c'est assez satisfaisant. On se sent utile. Nous venons d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 23 décembre 2018, émission que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Pas de répondeur pendant l'été, mais notre site reste ouvert. Marjorie Devoucou, Eliane Girard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Les Petits Bateaux répondront, entre autres, à « Peut-on avoir une société sans hiérarchie ?» Pourquoi la Joconde s'est-elle retrouvée en France? Et quand on traverse la Manche, est-on en France ou en Angleterre? Dans quelques instants, vous serez avec l'Atelu, mon petit Louis Denis Chessou.